foi et turbulence.
Bonjour, Mathieu Lavigne avec vous pour la prochaine heure. Très heureux de vous retrouver pour cette édition de Foi et Turbulence en formule Grande Entrevue. J'ai le bonheur de m'entretenir aujourd'hui avec Claudio Monge. Né le 28 mai 1968 en Italie, Claudio Monge vit en Turquie depuis 2003. Membre de l'Ordre des Frères Prêcheurs depuis 1993, Claudio Monge est responsable du Centre de documentation et de dialogue interculturel et religieux des Dominicains d'Istanbul. Docteur en théologie, il est l'auteur d'une thèse remarquée sur l'hospitalité, recherche historique et théologique qu'il a successivement développée dans d'autres écrits davantage axés sur la théologie du dialogue. Claudio Monge a passé 2 ans dans la communauté monastique et œcuménique de Thésée, y côtoyant son fondateur, le frère Roger, depuis décédé. Consulteur du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux depuis 2014, le frère Claudio est également chargé de cours à la faculté théologique de Bologne et professeur invité à Istanbul, Toronto, Cracovie et à l'Institut pastoral des Dominicains. Au cœur de notre rencontre aujourd'hui, 2 sujets qui se recoupent. L'hospitalité, à la lumière des trajectoires de Pierre Claverie et Christian de Chergé. Puis, en ouverture, la prière dans les 3 grandes religions monothéistes. Une entrevue sous le signe de la rencontre, de l'accueil, du dialogue. Une entrevue enregistrée dans ce haut lieu du savoir qu'est la bibliothèque des Dominicains du couvent Saint-Albert-le-Grand. Bonne émission. Claudio Monge.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, frère Claudio, parlez-nous de la présence dominicaine en Turquie et plus particulièrement du couvent des Dominicains d'Istanbul où vous vivez. Combien de Dominicains y vivent? Comment s'intègre votre communauté dans cette grande ville, énorme ville même qu'est Istanbul?
Tout à fait, oui. Tout d'abord, il faut dire qu'il s'agit d'une présence qu'on peut dire très petite, même fragile. Parce qu'actuellement, on est 3 frères en tous, mais on hérite quand même une très longue histoire, ce que parfois nous écrase un petit peu aussi, car la présence des Dominicains remonte au début de l'ordre même fondé par Dominique, justement, de Calerueg, dans le centre de l'Espagne. Les Dominicains sont probablement arrivés sur les rives de la Corne d'Or, donc à Constantinople à l'époque, vers 1231-1232, donc oui. Tout au début vraiment de l'histoire de l'ordre. Mm-hmm. À la suite, il faut le dire, des troupes croisées qui ont déferlé sur la ville lors de la 4e croisade 1204, qui représente encore aujourd'hui un grand traumatisme au cœur des relations entre Orient et Occident chrétien, évidemment. Les Dominicains n'arrivèrent pas tout de suite, mais quelques décennies après, d'ailleurs pas seuls, mais avec des franciscains, avec des bénédictins, et faisaient partie de ce qu'on peut appeler aujourd'hui une task force, la papauté, du pape, avec un but précis, c'est-à-dire de ramener les frères séparés au bercail de Rome, suite, on le sait, du grand schisme qui avait divisé justement l'Église d'Occident de l'Église d'Orient en 1054. Donc on le comprend tout de suite, une présence qui commence dans un cadre historique, dans des conditions très particulières, qui continuera d'ailleurs pratiquement sans interruption, celle de Dominicains, jusqu'à nos jours, mais en passant par exemple par la conquête ottomane, non, de 1453, dans des conditions là aussi qui changent encore énormément. Évidemment, les lieux changent. On avait probablement plusieurs églises tout au début, en époque byzantine. Après, on se déplace de l'autre rive, disons comme ça, de la Corne d'Or, dans le quartier qui nous accueille encore à présent. Probablement pas dans le même emplacement, mais un petit peu plus bas, dans un lieu où on avait sans doute une église assez importante, l'église de Saint-Paul, et un couvent conséquent. L'église et couvent ont été, on peut dire, réquisitionnés par les Ottomans, pas au moment de la conquête, quelques 40 ans après, et qui nous ont obligés à faire un déplacement en grimpant un petit peu la colline de Galata, où il y a la tour encore aujourd'hui, des anciens remparts génois. Et c'est là, dans ce site au moins, que les Dominicains se font accueillir par une famille génoise importante de l'époque, qui les accueille en leur permettant de célébrer dans la petite chapelle de la famille. Et voilà, continueront en bâtissant après, par la suite, des églises, au moins 4 bâtiments jusqu'à l'église actuelle de Saint-Pierre et Paul, et le couvent qui est beaucoup plus récent, hein, c'est déjà du 20e siècle, etc. Donc une présence qui doit s'adapter à des situations complètement différentes et qui change aussi de visée totalement.
Oui.
Alors, aujourd'hui, on se retrouve à Troyes dans un cadre bien différent, et déjà à l'intérieur d'un projet que dans les dernières 20 ans, plus ou moins, depuis quand, 20, 22 ans, depuis quand je suis un petit peu dans cette démarche, visée par la demande des supérieurs, donc de l'ordre dominicain en général, pas seulement des supérieurs de ma province religieuse, qui est la province du nord d'Italie, mais un petit peu un projet plus large de l'ordre en général, qui visait à intensifier, on pourrait dire comme ça, les rapports humains, culturels avec le monde turc. Donc, pas une présence prioritairement axée sur l'animation de la communauté locale chrétienne, mais qui regarde au-delà aussi des frontières. Et donc, qui demande une préparation adaptée, évidemment.
Oui.
Qui n'est pas seulement la préparation pastorale ou théologique classique, mais une préparation qui nous permette d'entrer en communication avec un monde autre. Notamment, la longue démarche, qui n'est jamais terminée d'ailleurs, d'apprentissage de la langue turque, etc., qui est une langue quand même assez importante et quand même difficile à approcher.
Donc vous êtes à l'avant-poste du dialogue, et d'ailleurs, vous avez donné récemment un cours à l'Institut pastoral des Dominicains, un cours intitulé « Quand les hommes parlent à Dieu, la prière dans les religions monothéistes ». Donc la prière dans cette perspective du dialogue et de l'interculturel. Vous soulignez que dans ces trois religions, donc la religion juive, chrétienne et musulmane, Dieu a pris l'initiative de se révéler. Donc Dieu a parlé aux humains avant que les humains ne lui parlent. Alors Claudio Monge, quelle est la nouveauté de ce dialogue spirituel par rapport à d'autres traditions religieuses?
Alors, tout d'abord, oui, je tiens que le cours, ce sont des temps privilégiés qui nous permettent aussi de réfléchir un petit peu plus théologiquement sur certaines questions que après on vit au quotidien de façon aussi très immédiate et pas forcément toujours réfléchie et théologique. Le dialogue et la rencontre avec des êtres humains, très très concrets. Et après, dans ta question, il y a vraiment déjà une partie de la réponse, parce que si la prière, c'est une dimension, je dirais, de l'humain anthropologique essentielle depuis toujours, bien avant des sémitismes, donc bien avant des religions monothéistes, c'est vrai que la prière adressée à un Dieu tout-puissant, caractérise les religions monothéistes et exprime justement cette condition intime de se retrouver à la présence de l'autre transcendant, et pas tout simplement de notre qui a envie d'entrer en contact avec l'humanité. C'est-à-dire un autre qui s'édonne à entendre, qui entre en communication, et donc, par le fait de s'édonner, permet à l'homme, quelque part, de saisir quelque chose de sa transcendance. Et c'est une perspective tout à fait nouvelle. C'est pas, donc, qui transforme la prière dans quelque chose qui est tout simplement une démarche anthropologique à quelque chose qui commence d'en haut, on pourrait presque dire. La prière commence déjà en Dieu. Et Dieu nous entraîne dans un dialogue mystérieux, parce que les deux partenaires du dialogue resteront toujours sur des niveaux quand même très 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 différents. Mais il faut dire que grâce à lui, cette aventure de la rencontre spirituelle peut porter vraiment très 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 loin, très très loin. Donc la prière, ça va de soi. Pour les trois religions abrahamiques, implique la foi. Justement, la conviction que l'homme jamais ne pourra atteindre Dieu, sauf si, par son bon vouloir, Dieu permet à l'homme, quelque part, d'entrevoir, de s'approcher. Évidemment, Évidemment, après, il y a des différences entre les trois religions abrahamiques, hein, dans cette perception.
La prière musulmane n'est pas la même qu'en christianisme ou qu'en judaïsme.
Tout à fait. C'est pas seulement une différence dans la façon de déployer cette prière, mm-hmm. mais la prière en tant que telle, dans sa démarche, est déjà le reflet de théologies aussi différentes.
Oui.
Parce que quand on parlait du fait de la volonté de Dieu de se communiquer à l'humanité, dans le christianisme, cette volonté peut être résumée dans un mot, l'incarnation. Alors, autre chose, c'est de dire que Dieu communique soi-même par une révélation, et donc, où c'est pas vraiment lui, mais c'est sa parole. Les musulmans diront plutôt, c'est par sa loi, la charia, qu'il se laisse entrevoir, qui communique, qui entre en communication. Le christianisme dit quelque chose de beaucoup plus radical, que Dieu en Christ prend chair. Et donc, c'est clair que cette rencontre advient au cœur de l'humain même.
Oui, le dialogue n'est pas le même. Là.
Je veux dire, absolument. Les dimensions sont bien différentes.
Oui.
Hein, sont bien différentes. Et évidemment, entraînent toute une différence aussi de déploiement des formes de la prière, des formes aussi qui deviennent liturgie véritable au cœur et au sein du christianisme, dans la tradition, dans l'histoire, etc. Évidemment, il y a des développements successifs qui sont quand même différents.
Oui, oui. Et Claudio Monge, quand à leur tour, les humains parlent à Dieu, en quoi leur religion d'appartenance vient-elle teinter leur manière de s'adresser à lui? Comment, dans les grandes religions monothéistes, on va s'adresser à ce qui nous dépasse, dans le fond.
Oui, justement, si on pense à la tradition juive et la tradition musulmane, tout d'abord, je dirais que la prière juive, aussi bien que celle islamique, sont d'abord une profession, ou on peut dire même une attestation de foi. Hein, ça. Tout en sachant que le schéma Israël, la fameuse prière qui est au cœur de la prière quotidienne islamique, « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, hein, l'Éternel est un », aussi bien que la shahada, c'est-à-dire la profession de foi, plus ou moins correspondant dans l'islam, non ? Il n'y a de Dieu que Dieu, et Mohammed et son prophète, voilà. Les deux ne sont pas tellement des professions de foi, on dirait nous, les chrétiennes, théologico-dogmatiques, exprimant quelque part par là l'unité, l'unicité de Dieu, mais sont un témoignage et sont le début d'une démarche de soumission.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que, aussi bien les patriarches dans la tradition ancienne testamentaire, comme les commentateurs de la Sunna, qui est l'ensemble des textes et des communications de la révélation au sens islamique du terme, ces gens-là ne spéculent pas sur Dieu. C'est-à-dire, ils n'essayent pas de faire une métaphysique de Dieu pour dire quelque part qui est Dieu, comment peut-on le décrire? Mais, tout simplement, leur façon de voir Dieu consiste dans une expérience. Dieu, on ne peut pas tellement le dire, il faut l'expérimenter.
Oui.
Hein, l'expérimenter au concret. Ce que, d'ailleurs, devient, disons-le, au cœur des évangiles, fondamental aussi dans la proposition et l'approche à la vie du Christ et au message du Christ. Christ, dans ce sens-là, il était profondément juif. C'est pas au nom d'une métaphysique et au d'un catéchisme qu'il aurait déjà imprimé avant de rencontrer les apôtres qui les attrait, mais tout simplement répond à une question qui est très décapante pour certains aspects. Où habites-tu? Et répond en disant, suivez-moi. C'est-à-dire entrer dans une démarche, c'est pas tellement en leur donnant tout d'abord un règlement, hein, pour devenir ses disciples, etc. Non, c'est pas ça. C'est plutôt les faire entrer dans une démarche existentielle.
Oui.
Et donc c'est qui portera à des découvertes étonnantes, disons comme ça.
Oui. Et vous, Claudio Monge, votre conception du dialogue interreligieux Elle est proche de ça. Pour vous, ce terme-là, dialogue interreligieux, vous n'en êtes pas très friand et vous insistez sur l'importance de l'expérience, justement.
Tout à fait. Parfois, j'ai réagi un petit peu quand on dit, bon, espère en dialogue interreligieux, comme si il pouvait y avoir une expertise théorique de ça. Évidemment, oui. Il y a une réflexion théologique de tout ça, et c'est important de la continuer, et c'est important. Mais tout d'abord, j'ai réagi toujours quand on parle, alors qu'est-ce que tu penses du dialogue interreligieux? Parce que ça laisse penser que c'est des systèmes qui dialoguent, non?
Oui.
Par exemple, on dit dialogue islamo-chrétien, dialogue juif-chrétien, etc. Mais c'est pas le judaïsme et le christianisme qui peuvent dialoguer, non plus le christianisme et l'islamisme.
Ce sont les gens.
C'est les gens. Mm-hmm. Ce sont des croyants concrets.
Oui. Oui.
Non? Alors quand les gens me disent, mais comment est-il possible, quand je reviens en Occident, surtout en nord de la Méditerranée, pour des conférences au bout des cours, comment est-il possible fondamentalement dialoguer avec des musulmans? Mais moi, je dialogue pas avec des musulmans en tant que tels. Je dialogue avec des personnes. J'entre en communication avec des personnes qui peuvent être des croyants ou pas des croyants, déjà. Des bons croyants, moins bons croyants.
Mm-hmm.
Tout comme nous, au fond.
Oui,
hein,
oui.
Avec des crises, des difficultés, etc. C'est ça qui m'intéresse. C'est une démarche existentielle, concrète, qui est porteuse d'une recherche que, quelque part, m'interroge et qui peut, justement, d'ailleurs, m'aider moi-même à repenser ma façon d'être croyant, ma façon de croire, mm-hmm. et me rapporter à Dieu.
Oui. Et Claudio Monge, est-ce que la prière elle-même peut être un lieu de dialogue entre les trois religions monothéistes, voire entre la plupart des grandes traditions spirituelles, religieuses?
C'est une question très fascinante. Je dois dire que, d'ailleurs, ça occupe le peu de temps que j'ai actuellement pour une réflexion aussi un petit peu théologique.
Oui.
Parce que ce qu'on vient de dire tout au début, non, que les religions monothéistes ou abrahamiques se retrouvent quand même dans une définition partagée de la prière comme se mettre en présence de l'autre transcendant qui veut entrer en communication, c'est quand même déjà important.
Mm-hmm.
On se demande justement, mais alors, ce n'est pas suffisant tout ça pour affirmer qu'en tant que croyants des religions monothéistes, nous pourrions même prier ensemble. Ou nous pourrions vraiment, mettre à profit le fait de pouvoir vivre la richesse de la prière de l'autre. Il y a beaucoup de monde qui a des réticences par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui tranche carrément en disant non, les croyants des trois religions abrahamiques pourront jamais véritablement prier ensemble. Je ne peux pas totalement adhérer à cette vision si tranchée. Je pense que tout d'abord, la question ne peut pas être posée d'une manière, je dirais, indépendante, mais bien en lien avec tout un contexte de dialogue entre croyants chrétiens, musulmans et juifs, dans notre cas. Non, ce qui veut dire que, encore une fois, c'est des vies concrètes qui dialoguent.
Oui.
Et nous, on ne peut pas être réduit tout simplement au fait d'être des croyants. On est des hommes et des femmes dont la foi travaille un quotidien qui s'exprime dans mille manières différentes.
Oui.
Hein, et pas forcément toujours filtré par le fait d'une adhérence religieuse, etc. Non, éventuellement, le défi, c'est de rendre de plus en plus importante cette référence religieuse au cœur de notre quotidien. Mais ce n'est pas le cas. Donc, déjà, parler de dialogue avec quelqu'un d'autre, ça veut dire déjà être capable de partager une vie concrète au quotidien. Partager des rêves, des espoirs, etc., au quotidien. Et après, deuxième passage, je crois que, comme pour moi, c'est important de décliner quelque part ma foi au cœur de mon quotidien, le croire fermement aussi pour l'autre qui est devant
oui.
moi. C'est-à-dire voir, par exemple, dans le musulman, même si je ne peux pas partager, au fond, le cœur de sa foi, croire fermement et faire confiance à la cohérence interne qui est la sienne dans sa démarche, à la sincérité
oui.
interne qui est la sienne dans sa démarche. Ça, c'est déjà important. Le respect profond de la démarche de l'autre. Et là, alors, je pense que si on accorde hein, cette cohérence, on peut penser qu'on est en chemin. On est en chemin. Et la question d'éventuellement arriver un jour à un désir profond de pouvoir partager quelque chose de la prière peut émerger du fait que c'est pas nous dans notre démarche qu'on vient en premier, mais c'est ce Dieu à qui on vise qui est en premier. C'est lui qui nous convoque à la prière. C'est lui qui nous appelle, croyant différemment, à essayer de réunir notre imploration, notre louange, hein, envers lui, même si on appartient à des univers dont lui seul, Dieu, peut voir parfois la pertinence. Parce que, et c'est une autre chose qu'on affirme, qu'on croyant des trois religions abrahamiques, lui, il est notre créateur, à nous tous.
Oui.
C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a pensés, etc. Et donc, c'est lui qui, quelque part, nous appelle à se retrouver en lui un jour, à la fin de ce parcours qui est le parcours historique, le parcours de la vie de chacun de nous.
Oui. Et Claudio Monge, est-ce que vous, personnellement, votre conception de la prière, votre pratique de la prière a changé au fil de vos contacts nombreux et étroits avec diverses cultures et diverses religions?
Wow, ça c'est, il faudrait vraiment du temps et s'arrêter un moment pour réfléchir à cette question qui est tellement profonde, je trouve. Ben, tout d'abord, je pars de l'idée que notre vie spirituelle ne peut pas être figée, ne peut qu'être en conversion permanente, en évolution permanente. Donc, elle a certainement aussi évolué depuis quand je vis en terre d'islam, donc bientôt 20 ans. C'est un long tranche de ma vie. Mm-hmm. Et pour des facteurs qui sont intérieurs, spirituels, à moi, mais sans doute aussi extérieurs, d'influence extérieure, tout d'abord. Alors, c'est vrai, je dirais, ça me vient tout de suite ça, je suis pas un moine, mais j'ai découvert, par exemple, depuis quand je vis en terre d'islam, en Turquie notamment, le rapport très profond entre la prière et l'espace et le temps. Hein? Ça veut dire que la prière se situe dans différentes cultures et dans différents lieux, dans différentes religions aussi, a une importance particulière par rapport au temps et à l'espace. Je donne un exemple. Le fait que au quotidien, en Istanbul, là où je vis, la journée est scandée par les appels,
oui,
des muezzines, mm-hmm, à la prière, etc. Oui. C'est quand même intéressant. Tout au début, on peut le vivre même avec un petit peu d'accassement, parce que ça, en plein été, surtout, ça peut commencer à 4 heures du matin. Ça te réveille, c'est quelque chose de brutal, etc. Mm-hmm. Après, quand on y rentre lentement, et on entre aussi progressivement dans la culture, par exemple, en tant que croyant chrétien, je me dis souvent, waouh, c'est un appel à moi aussi,
oui,
pour recentrer,
oui,
ma journée. Et la
ça devient un repère pour vous aussi.
Absolument.
Oui. Hein?
Ça peut devenir un repère commun.
Oui. Oui.
Moi, dans mon contexte, à dire, bon, oui, parfois, je mets un petit peu dans un tiroir ma vie spirituelle, etc. Il faut que davantage je me rappelle que je suis en cette communication. Et par rapport à l'espace aussi, les lieux de prière, moi, je trouve, il y a bien, par exemple, des mosquées fantastiques,
oui,
à Istanbul, très belles au point de vue de l'art, ce qui sont parfois des havres de silence dans une ville qui, comme on a déjà dit tout au début, et c'est une mégalopole,
oui,
bruyante, parfois insupportable. Et bien, parfois, il y a des gens qui disent, mais toi, tu pourrais arriver à prier dans une mosquée. Mais évidemment, oui. C'est un lieu qui est favorable à l'élévation. Hein. Et parfois, je suis aussi très en admiration vis-à-vis des priants musulmans, hein, en regardant leur concentration, leur façon, et en étudiant aussi leur façon de prière, je peux apprécier, hein, certains passages, le fait que vraiment ils vivent ça comme un moment qui rassemble toute leur journée, toute leur vie, et ça ne peut que me stimuler quelque part. Après, évidemment, vivre avec et ensemble, ça veut dire aussi jauger davantage la richesse de la tradition qui est la nôtre. Par exemple, quand je suis dans une mosquée, parfois même lors d'une prière commune des musulmans, je me rends compte et je suis toujours étonné par ce que j'appelle la verticalité radicale de la prière islamique. C'est-à-dire, c'est un solo entre le priant et Dieu. même s'il est parmi parfois des centaines oui. d'autres prions.
Seul ensemble.
Seul ensemble. oui. Mais pourquoi je dis ça? Parce que la dimension que j'appellerais de communionnelle, la oui. communion qui est centrale, par exemple dans la liturgie eucharistique qui est au sommet de notre vie spirituelle, de notre liturgie, eh bien, c'est relative. Au fond, voilà. On avait évoqué tout au début l'incarnation. L'autre qui est à côté de moi n'est pas une voie, une porte d'accès à Dieu. Mais tout simplement, c'est quelqu'un qui, comme moi, s'adresse à Dieu. Et sa présence d'ailleurs à côté de moi peut être utile, entre guillemets, de façon fonctionnelle à ma prière. Hein, parce que s'il est tout près de moi, par exemple, empêchera à Satan de passer entre nous et m'arracher à la prière. Donc, il est important qu'il soit là. Mais, je le dis encore comme ça, il n'y a pas quelque chose au cœur de la prière liturgique islamique de correspondant à l'idée si pendant ton Eucharistie, pendant ta prière, tu te rends compte que tu as quelque chose avec ton frère, laisse ton offrande sur l'autel, va te réconcilier avec ton frère, après reviens et fais. Bon, il n'y a pas véritablement ça. Ce qui n'exclut pas que, après, même pour les musulmans, l'entraide, la capacité d'être attentif à ceux qui ont besoin, etc., est tout à fait fondamentale. Mais au cœur de l'acte spirituel n'est pas aussi fondamental, oui. par exemple.
Oui.
Donc, c'est un don que de redécouvrir ça et son importance grâce à la différence de mes frères musulmans, oui. qui me ramènent à ma tradition.
Mm-hmm. Quelque part. Oui. Voilà. Claudio Mangi, c'est passionnant et on va pouvoir poursuivre la conversation après cette petite pause musicale où on va écouter Fred Pellerin y aller de sa version de la pièce « Amène-toi chez nous ». Donc ça va ouvrir sur ce thème qu'on va aborder ensemble après la pause, soit celui de l'hospitalité. Alors, à tout de suite.
Si le cœur te fait mal, si tu ne sais plus rire, si tu ne sais plus être gai comme autrefois, si le cirque est parti, si tu n'as pas pu le suivre, amène-toi chez nous, je t'ouvrirai les bras. Je n'ai rien de bouffon qui déclenche le rire, mais peut-être qu'à deux, nous trouverons la joie. Si tu ne peux pas mordre dans la vie qui t'emporte, parce que c'est la vie qui te mord à chaque jour, si tu ne peux répondre au coup qu'elle te porte, amène-toi chez nous, je serai dans ma cour. Je ne sais pas guérir, je ne sais pas me battre, mais peut-être qu'à quatre, nous trouverons le tour. Viens. N'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le creux des ruisseaux. Si les ruisseaux savent trouver la mer, peut-être trouverons-nous la lumière.
Vous êtes toujours à l'écoute de Foi et Turbulence sur les ondes de Radio-VM. Mathieu Lavigne au micro, en compagnie du frère dominicain Claudio Mangi, responsable du Centre de documentation et de dialogue interculturel et religieux des Dominicains d'Istanbul, en Turquie, pays où mon invité d'aujourd'hui vit depuis 2003. Alors qu'en première partie d'entrevue, nous avons parlé de la pratique et de la conception de la prière dans les religions monothéistes, il sera maintenant question de la notion d'hospitalité, notion qui est, vous en conviendrez, particulièrement d'actualité. Alors, frère Claudio Mangi, vous faisiez paraître au Québec, en septembre dernier, un livre coécrit avec le théologien Gilles Routier, livre qui a pour titre « Oser l'hospitalité à l'école » de Pierre Clavry et Christian Dechergé, un ouvrage qui est paru chez Bayard. Vous nous invitez dans ce livre à oser l'hospitalité. Claudio Mangi, est-ce que c'est donc dire que nos sociétés, à vos yeux, ne la pratiquent pas déjà, cette hospitalité?
Vaste question, oui. Comme vous venez de le dire, c'est quand même un sujet d'actualité brûlante. J'ai quand même l'impression que on a du mal en ce moment à décliner cet acte fondamental au cœur de l'humain et pas seulement des religions. Moi, je suis italien d'origine. J'ai grandi, je dirais, sur les rives de la Méditerranée. On sait combien cette mer actuellement entre le Proche-Orient et l'Europe est plutôt un clivage,
oui.
Presque mur, et d'ailleurs dramatiquement aussi un immense cimetière qui dit aussi la difficulté d'un Occident opulent, ultra riche, etc., d'être attentif à ce sud du monde qui pousse aux portes de l'Occident et qui le fera davantage, parce que souvent paye d'ailleurs des dégâts que l'Occident et que nous on fait chez eux. Je pense que c'est une question énorme. Il faut pas généraliser. Il y a évidemment une attention développée au thème de l'hospitalité, mais voilà, dans les siècles, je pense que nos sociétés modernes ont eu la tendance plutôt à transformer l'hospitalité originaire en hospitalisation, c'est-à-dire en offre de services, éventuellement gratuits, mais pas forcément, éventuellement aussi payants, donc dans un cadre d'organisation sociétale qui est tout à fait fondamentale, importante, mais qui risque d'estomper le sens originaire de la véritable hospitalité, qui est un acte gratuit, radical, que pour ça, sent et renvoie au divin. Au divin, parce que Dieu, il faut pas l'oublier, c'est le premier qui est hôte de l'humanité dans le double sens du terme, en langue française, c'est-à-dire non pas seulement celui qui accueille l'humanité, dont ses créatures dans son sein avec sa miséricorde, mais aussi, et ça c'est vraiment inouï, qui frappe à la porte de l'humanité pour se faire accueillir à son tour, avec une discrétion qui est parfois déconcertante et qui est fondamentalement le respect de la liberté humaine, hein, de l'accueillir et de le faire entrer au cœur de son existence.
Ouais. Et cette notion d'hospitalité, vous faites très bien la différence entre, en fait, cette hospitalité qui est sacrée, donc qui s'éloigne de tout désir d'assimilation. C'est un refus de que l'autre soit en otage.
Tout à fait. Tout à fait. Et la gratuité totale, l'hospitalité ne peut pas être exigée, peut être demandée très discrètement, et en même temps, c'est jamais un rapport définitif. C'est un rapport provisoire, parce que même dans les règles anciennes des sociétés tribales, claniques, itinérantes, l'hôte, c'est-à-dire celui qui était accueilli, au bout de quelques jours, avait deux choix, ou reprendre son chemin, ou alors entrer à l'intérieur de la communauté donnée,
oui.
Évidemment en adhérant à des règles,
oui.
Pour vivre ensemble. Donc l'hospitalité véritable, ça concerne vraiment le premier contact, hein, cette rencontre avec l'autre, l'étranger, etc. Et c'est pour ça que je dis cette rencontre avec l'altérité radicale inconnue, à laquelle d'ailleurs on ne demande pas forcément ni visa, ni carte d'identité, ni passeport, hein, attention. On l'accueille parce qu'il est autre, parce qu'il frappe à ma porte, parce que visiblement a besoin d'être accueilli. Et on fait pas encore des évaluations,
oui.
Hein, pour le caser. Ça c'est bon. Là, je pense que aujourd'hui, peut-être, ça fait peur, ça. Ça fait peur, et probablement, c'est pas l'autre en tant que tel qui nous fait peur, mais tout d'abord, c'est l'autre que nous, qu'on rencontre grâce à celui qui frappe à notre porte, qui nous fait peur. Parce que l'autre nous renvoie à nous-mêmes, comme disent aussi certains philosophes, la pensée existentialiste, par exemple, non, qui disent nous renvoie à la fragilité, hein, qui est la nôtre, parfois, au manque de repères qui est le nôtre, la recherche de sens difficile, qui est la nôtre, etc. Donc tout ça peut devenir un cadeau extraordinaire, dans la mesure où on est prêt à faire un chemin.
Et Claudio Monge, pourquoi avoir, dans votre ouvrage intitulé « Oser l'hospitalité », un livre que vous avez coécrit avec Gilles Routier, pourquoi avoir placé Pierre Clavery et Christian de Chergé au cœur de cet ouvrage? Pourquoi ces deux personnes plutôt que d'autres témoins d'une hospitalité radicale?
Tout d'abord, il y a une motivation très contingente. Quand, avec Gilles, dans notre dialogue, on a commencé à rêver ensemble de ce projet d'écriture, s'approchait la date de la canonisation de ce qu'ont été appelés les martyrs d'Algérie. Donc, oui. C'était la date précise, le 8 décembre 2018, donc presque il y a un an. Donc, c'était au terme d'une très longue démarche, etc., que ça a été possible en Algérie même, à Oran, qui était le diocèse où Pierre Claverie, justement évêque dominicain, avait été justement évêque et tué en tant qu'évêque. Et donc là, il y avait une raison contingente, c'était l'actualité qui nous oui. amenait à... Évidemment, il y a d'autres exemples extraordinaires dans l'histoire, pas seulement dans l'histoire chrétienne d'ailleurs, dans l'histoire des religions, des fois, des gens qui sont d'accueil radical et ouverts à cette chose. Donc, il y a cette raison. Et après, je pense qu'il y a une particularité du témoignage de Pierre Claverie et de Christian de Chercher, comme d'ailleurs leurs copains martyrs, autres 17 personnes, hommes et femmes, sœurs, laïcs, prêtres, moines, qui ont été tués dans la même décennie, presque en 3-4 ans, hein, dans les années 90 en Algérie. C'est parce que ils nous témoignent un petit peu tous que par hospitalité, on entend un long, passionnant, mais justement aussi très risqué parcours, parfois même douloureux, et la fin de ces hommes et de ces femmes en témoigne davantage, par lequel, on pourrait dire, on se met sur les traces d'une véritable relation à autrui, mais aussi à la création tout entière. C'est pas seulement à l'autre comme tel, mais à la création toute entière, non? Et l'hospitalité véritable, on l'a dit déjà, n'est pas seulement gratuité absolue. Non, elle ne refuse pas toute assimilation, et ceci dans des sociétés où l'aspiration d'une communauté qui cherche, par exemple, à être reconnue dans sa différence procède le plus souvent d'une oppression parfois subie dans le passé. Ou le présent. La question des mémoires blessées qui étaient propres à l'Algérie de ces années où Pierre et Christian ont vécu, mais qui est souvent propre aussi à tant de sociétés. Moi, en vivant en Turquie, je connais oui. combien d'histoires de ce type. Non Et donc, vivre l'hospitalité, c'est accepter le véritable défi de l'autre. Et là, Pierre et Christian nous disent davantage, c'est que la véritable hospitalité, c'est celle qu'on demande, tout d'abord. Qu'on quémande, qu'on souhaite, parce qu'on souhaite être reçu et accueillir. Car si être homme et femme d'hospitalité, ce n'est pas évident, déjà, on pourrait quand même encore être orgueilleux, s'enorgueillir,
oui.
Être flatté dans notre sens paternaliste, quelque part, et materne, parce qu'on est bon, on est généreux, on est gentil, donc on accueille l'autre. C'est laisser accueillir par l'autre, c'est plus difficile, nous disent, parce que signifie quitter un petit peu ce que eux, ils appelleront la position haute, pour prendre une position basse vis-à-vis de l'autre. Presque aussi se faire pardonner le fait de représenter parfois une histoire que, malgré nous, c'est une histoire très négative pour ceux qui nous accueillent.
Si dans ce cas-ci, la France coloniale.
Exactement. Ouais. Ouais. Exactement. Pierre et Christian n'ont pas pu empêcher, quelque part, d'être considérés des prototypes du colon. Des prototypes de cette France que, pendant des décennies, etc., a été le pays colonisateur, etc. Et donc, il faut assumer tout ça. Même si on n'est pas forcément directement responsable, assumer tout ça et entrer vraiment au cœur de l'autre, même par le pardon, en se faisant pardonner l'histoire presque qu'on représente.
Est-ce qu'ils ont fait une démarche où un pardon est demandé?
Absolument. Déjà, je pense que c'était une démarche au quotidien, parce que c'était un petit peu la façon d'entrer progressivement au cœur de la vie de l'autre, par un long processus qui est physiquement, j'aime bien le représenter comme ce geste qu'on doit faire, par exemple, en terre d'islam, quand on entre dans une mosquée. C'est déchausser.
Oui.
Hein? Entrer très discrètement dans la vie de l'autre. Et encore une fois, voilà, à l'image de ce Dieu que dans l'Apocalypse, chapitre 3, est décrit comme celui qui reste à la porte, il frappe. Et il pourra entrer à jeûner avec l'autre qui l'accueille seulement si l'autre ouvrira la porte. Et la porte s'ouvre de l'intérieur. Et il ne va pas la battre, cette porte. Non, donc c'est très intéressant. Leur attitude a été ça. Et d'ailleurs, dans des années de violence inouïe, où la société était polarisée d'une façon hallucinante, ils ont ouvert des parcours de rencontres incroyables en découvrant que ce parcours devait être tout d'abord le leur. Par exemple, chez Pierre Claverie, est très clair. Pierre Claverie était un pied noir. C'est-à-dire, il est né en Algérie. Il n'était pas missionnaire en Algérie. Il est né en Algérie, au cœur d'une famille française, que depuis des 4 générations vivait à d'Alger, parce qu'ils étaient entrepreneurs, etc. Et lui-même, il dit, moi je suis arrivé jusqu'à l'âge de 18 ans, pratiquement, en vivant dans la bulle coloniale, c'est une expression à lui. C'est-à-dire, dans un monde parallèle. Je me rendais pas compte que j'étais dans le pays où l'autre, l'Algérien, je ne le connaissais du tout. Je communiquais, je vivais en français dans un contexte totalement francophone.
En parallèle.
En parallèle, oui. L'autre n'existait pas. Et l'autre, un jour, dit Pierre, a fait éclater cette bulle. Quelque part en s'imposant au cœur de ma vie, aussi par la violence. Et Pierre commente, ça pouvait être différemment. Ça, c'est intéressant, non? Parce qu'effectivement, on est arrivé à un tel niveau d'ignorance l'un de l'autre que tôt ou tard, l'autre te crie presque son existence et crie ses droits vis-à-vis de toi et il faut le prendre en compte. Et là, alors, se commence une longue démarche qui signifiera aussi pour Pierre une prise de recul. Parce qu'il découvrira ça, parce qu'il sera envoyé par ses parents en France pour terminer ses études. Et cette prise de recul, ça lui permettra de dire, tiens, ce monde-là, c'est quand même intéressant. Et commencer à nourrir le désir d'y revenir, mais justement, déchausser.
Ah, oui.
En commençant par la longue démarche, par exemple, de l'apprentissage de la langue, arabe, etc. Et dans le cadre, c'était pour lui, parce que c'était aussi sa découverte d'une recherche vocationnelle importante, revenir en Dominique, qui, alors, au bout d'un moment, dit, je suis né dans une terre, mais j'aimerais bien pouvoir donner ma vie, en témoin de l'évangile, dans cette terre,
oui.
Qui a été la matière de naissance, en rencontrant finalement des frères et des sœurs reconnus pour ceux qui sont effectivement dans leur diversité. Oui.
Et parlez-nous de Christian de Chergé.
Christian de Chergé a un parcours, il n'était pas pied-noir lui, mais un parcours quelque part similaire, c'est-à-dire de longs rapports avec l'Algérie, parce que Christian était un Alsacien, ce qui en France est tout de suite facilement reconnu comme très souvent appartenant à une famille de militaires. Et donc, il sera envoyé en service militaire pendant 18 mois, en pleine guerre d'Algérie, une guerre que lui dira subie plutôt que combattue, mais quand même, comme responsable d'un ensemble de villages dans une zone rurale du pays. Donc là aussi, en plein, évidemment, son premier impact avec ce pays sera l'impact du colon, du militaire, d'une armée, du pays colonisateur, etc. Après, lui aussi entrera dans une démarche vocationnelle, etc. Et il se sentira appelé à une vie monastique particulière, trappiste, etc. Et ce souvenir qui l'a marqué quelque part deviendra aussi le désir peut-être un jour de retourner, parce que les trappistes avaient depuis des décennies, déjà à l'époque coloniale, créé une fondation très importante sur le mont Atlas, donc sur la chaîne montueuse de l'Algérie. Un monastère qui d'ailleurs, au début de son histoire, représentait justement cette approche quelque part conquérant, même spirituel. Un immense monastère sur une colline dominant la vallée, dominant la plaine, etc., à l'ombre d'une immense statue de la Vierge Marie, c'est-à-dire une présence qui marquait le terrain, hein, d'une façon très forte, d'ailleurs, dans le rêve, peut-être, d'une vie monastique éblouissante, etc., immense, peut-être, pour une centaine de moines, qui n'a jamais été le cas, d'ailleurs. Oui. Et après une profonde crise qui était celle de cette institution, l'idée peut-être de tout fermer, etc. Et Christian qui revient avec un petit groupe de moines qui, malgré tout, décide de rester. Mais à partir, là aussi, d'une approche déchaussée, je dirais.
Oui.
plus précisément, Christian utilisera un terme très fort, une approche désarmée. Lui, un vieux militaire, oui, je pense, était parlant, et disait, il faut nous désarmer avant encore de prétendre que l'autre face à nous, qui est peut-être dans un moment aussi de violence inouïe, se désarme. Il faut nous désarmer et il faut aussi par là désarmer notre vision de Dieu.
Oui.
Parce que c'est au nom parfois d'un Dieu, chef des armées, qu'on a imposé une vision violente, hein, même de notre foi à l'autre, ce qui n'est pas le cas. Parce que si on rencontre, et là alors le témoignage chrétien, presque mystique, si on rencontre le Dieu de Jésus-Christ cloué à une croix, voilà, c'est l'image d'un Dieu désarmé qui désarme, qui enlève qui désamorce quelque part la force inouïe de la violence par la non-violence. Et donc là aussi, ça sera toute une démarche qui le portera quand même à donner sa vie, à ne jamais pratiquement mettre en discussion le fait que ce soit important, même dans un moment où sa vie et la vie de sa communauté étaient en danger, de dire par solidarité avec un peuple aussi qui souffre, de rester jusqu'au bout pour témoigner du mystère pascal.
Oui. Claudio Monge, en quoi l'expérience de l'hospitalité, tant celle donnée que celle reçue, à la lumière des témoignages de Pierre Clavry et de Christian de Chergé, est-elle transformatrice? En quoi l'hospitalité vient nous transformer?
Mais en partie, je pense qu'on l'a déjà dit, dans le sens que justement, c'est vraiment un changement radical d'approche. C'est vivre ce qui est le véritable martyr, qui n'est pas, attention, immédiatement, tout de suite, tout simplement, le fait de donner sa vie de façon aussi concrète, physique, etc. Mais c'est le témoignage. Témoignage de quoi? Témoignage, justement, on vient de le dire, d'un Dieu qui, de façon très discrète, vient au cœur de l'humain, traverse les violences qui sont propres de l'humain, les assume sur soi, et paye aussi ces violences par le don de la croix. Ce Dieu qui malgré tout, même sur la croix, élargit les mains, et dans un geste presque d'accueil universel, hein, ses mains clouées, et qui refuse de répondre à la violence par la violence. Et là, c'est une transformation radicale, parce qu'on est violent, parce que la réaction, disait souvent Pierre, la réaction humaine normale, c'est celle dans des situations de soupçons, de difficultés, de peur, ou d'attaquer, ou de séduire, hein, ou attaquer ou essayer quelque part d'avaler. C'est-à-dire éliminer cette altérité radicale, hein, qui nous permet d'être hommes et femmes en dialogos, en dialogue.
Oui.
C'est-à-dire à une distance suffisante pour accepter l'autre comme un don et à son tour espérer que l'autre puisse nous accueillir comme don.
Oui.
Voilà. Et ça, c'est la véritable transformation que je pense traverse non pas seulement tous les écrits, tous les prières, mais c'est le style d'un côté pastoral profond du pasteur, c'est-à-dire de Pierre Clavery, et le style mystique, orant et accueillant de Christian avec sa communauté au cœur du monastère de Tibérine.
Oui. Et dans votre ouvrage, Claudio Monge, vous écrivez avec Gilles Routier que la mort violente de Christian de Chergé et de Pierre Clavery ne doit pas être perçue comme le signe d'un échec. Expliquez-nous en quoi cette trajectoire ne constitue pas un échec, justement.
Mais je pense parce que, je disais avant, c'est un parcours autre que l'Église d'Algérie, et avec l'Église d'Algérie, tant de croyants musulmans, parfois très simples, ont décidé d'entamer pour une réconciliation profonde, qui ne peut pas être tout simplement une réconciliation par décret. L'État algérien, quelques années après la mort des martyrs de l'Algérie, donc au début du troisième millénaire, des années 2000, avait commencé par référendum même une sorte de procès de pacification interne, qui comportait aussi éventuellement presque un coup d'éponge, une sorte d'amnistie générale pour dire assez, on n'en peut plus de cette violence, il faut arrêter. Mais qui fondamentalement risquait de ne pas soigner les plaies profondes.
Les mémoires guérissent pas comme
exactement.
Ça.
Exactement. Oui. Les mémoires, pour être guéries, doivent pouvoir se dire. Il y a tout un parcours à faire. Et je pense qu'eux, ils ont entamé ce parcours-là. Et ce parcours-là, même après leur mort, a porté des fruits profonds. Et au fond, ce qui s'est passé il y a un an, dans la canonisation le 8 décembre 2018, c'était le témoignage clair de ce parcours. Il a fallu presque 2 ans de négociations pour obtenir, comme le souhaitait Pape François, une célébration en Algérie même, à Oran. Et on comprend très facilement que canoniser des gens qui sont morts dans une époque de violence, qui était aussi des violences étatiques, quelque part, pouvait être interprété comme une sorte de j'accuse vis-à-vis d'une nation, d'un peuple, etc. Eh bien non, le grand parcours qui a été entamé de dialogues, etc., a fait comprendre que par cette canonisation, on voulait arriver à faire un hommage inouï à tant d'Algériens simples, oui. etc., qui ont cru, aussi à la suite de ces témoins extraordinaires chrétiens, qu'une véritable réconciliation passe seulement à travers une véritable rencontre, un véritable pardon.
Oui.
Et là, c'était l'aboutissement de tout ça. C'est pas encore fini, ça doit continuer évidemment, mais c'était déjà là, l'aboutissement d'un long parcours qui était le jour de la canonisation, je dirais aussi représenté de façon visuelle par une grande icône qui dominait l'hôtel où avait lieu la grande concélébration. Et c'était une icône qui évidemment représentait les 19 martyrs d'Algérie, l'évêque et tous les autres reconnaissables avec une rôle, etc., typique, non, des saints, etc. Et après, il y avait un personnage un petit peu mystérieux, un petit coin en bas, sur la droite, qui était Mohamed, justement le chauffeur de Pierre Clavier,
oui.
qui avait refusé de quitter Pierre quand Pierre sentait et savait très bien d'être menacé de vie, l'avait prié plusieurs fois de rentrer dans son village auprès de sa mère parce que c'était trop dangereux. Lui, finalement, musulman, avait refusé de l'abandonner au nom de l'amitié et de la fidélité, de l'amitié qui peut pas tomber au moment de l'épreuve. Eh bien, Mohamed a quelque part été représenté dans cette icône, sans auréole, mais au fond, il, par sa présence, représentait tout le peuple d'Algérie,
oui.
Qui, en ce moment, en ce moment-là précis de la célébration, était à l'honneur aussi, présenté au pied, voilà, de ce Dieu un, unique, qui sans doute a accueilli son don comme a accueilli le don des martyrs d'Algérie.
Oui. Et Claudio Monge, si les trajectoires de Christian de Chergé et de Pierre Claverie ne constituent pas un échec, on peut à tout le moins croire qu'elles viennent rappeler que l'hospitalité est un risque, demeure un risque.
Tout à fait. L'hospitalité est un risque fou. Et sans ça, je pense qu'on ne peut pas la vivre jusqu'au fond. Et c'est justement là la différence radicale entre l'hospitalité radicale et l'hospitalisation. C'est tout simplement rendre un service. C'est entrer dans le monde, quelque part, de l'autre, en lui demandant de nous accueillir et en l'accueillant à son tour, sans savoir encore si le don qui est le nôtre sera accueilli ou moins. Et donc, c'est là déjà. Mais Christian, par exemple, il disait que le fait de regarder dans son visage l'autre, le fait de façon désarmée, aller vers lui en sollicitant son accueil, peut être un acte tellement subversif qui peut être désarmant à son tour. Parce que donne à l'autre son poids, tout son poids, et l'interpelle à courir peut-être le même risque et se retrouver à mi-chemin de ce parcours qui les deux doivent quelque part faire.
Oui. Et Claudio Monge, en quoi le fait de vivre en Turquie, de vivre à Istanbul, vient nourrir votre propre réflexion sur le thème de l'hospitalité?
Ah, au quotidien. Je dois dire que depuis 22 ans que je côtoie ce monde, j'ai découvert, par exemple, tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire y entrer pas avec les chaussures, mais déchaussées. Ce n'est, par exemple, que par la longue démarche de l'apprentissage de la langue, non? On arrive après, avec un âge déjà d'un certain type, on avait cru d'avoir tout étudié, et on se ressent comme des enfants qui doivent recommencer de zéro, que parfois disent des bêtises totales.
Une vulnérabilité.
Exactement, qui, totalement, oui. Non? Oui. Et on est un petit peu aussi à la merci de la bienveillance de l'autre, quelque part, non? Et donc, déjà, ça, c'est une expérience. Après, par exemple, il n'y aurait pas ma recherche qui date depuis 20 ans sur les thèmes de l'hospitalité sacrée, etc., sans avoir connu ce monde, et qui a aussi un sens concret d'hospitalité que nous, les Occidentaux, parfois, on a un petit peu perdu, qui veut dire aussi un rapport, encore une fois, très particulier au temps et à l'espace. Parce que c'est pas possible, par exemple, en Italie ou en France ou au Canada, prendre un rendez-vous chez le coiffeur, entre 1000 autres engagements, et entrer chez le coiffeur et entendre dire « Bonjour, bienvenue, est-ce que je peux vous offrir du thé ?» On voudrait dire « Nous, non, excuse-moi, j'ai ce mot, 20 minutes, je voudrais que tu me coupes les cheveux. » Et non, pourtant, c'est important dans ce monde-là que tout d'abord accueillir la personne qui vient, avant de lui offrir le service qui on est censé lui offrir, service d'ailleurs payant, etc. Et là, ça m'avait quand même très étonné, même au troisième millénaire, de découvrir ça. Et je suis entré peu à peu aussi, vraiment dans un monde qui a des rythmes qui sont les siens, qui a des coutumes, des habitudes qui sont différentes. Et c'est vraiment une longue... Je pense que l'approche même au monde turc n'aurait pas été le même sans entrer progressivement dans cette logique qui s'appelle justement logique d'une hospitalité particulière.
Oui. Claudio Monge, un très grand merci pour cette entrevue. Ça a été vraiment un bonheur, un grand plaisir. Merci beaucoup.
Merci à vous de même.
Alors, je rappelle que Claudio Monge est théologien, spécialiste des questions d'hospitalité et de dialogue et responsable du Centre de documentation et de dialogue interculturel et religieux des Dominicains d'Istanbul en Turquie. En septembre dernier, Claudio Monge et Gilles Routier faisaient paraître chez Bayard l'ouvrage « Oser l'hospitalité » à l'école de Pierre Clavry et Christian Dechergé. Je rappelle que cette émission est produite par l'Institut pastoral des Dominicains avec le soutien financier de la Fondation canadienne de la vidéo religieuse et de la Fondation Adieu va. Je m'appelle Mathieu Lavigne, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM. À bientôt.